une vie, une œuvre. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour écouter l'émission consacrée à Georges Navelle. Charles-François-Victor Navelle, né le 30 octobre 1904 à Pont-à-Mousson, mort le 1er novembre 1913 à Die. Entre ces deux dates, qui vont presque d'un bout à l'autre du XXe siècle, il a connu une existence peu ordinaire et un destin littéraire à l'image de cette vie partagée entre la grisaille du Nord et la lumière du Sud. Né dans le monde ouvrier, lui-même devenu ouvrier, il a refusé le monde de l'usine et a mené une vie sur les marges, s'essayant très tôt à la littérature, mais ayant connu une reconnaissance très tardive. Une partie de son parcours s'est déroulée à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, et son témoignage est très important pour comprendre la condition ouvrière de l'entre-deux-guerres, alors que la grande usine se généralise.
Il passait beaucoup de temps sous la table quand il était petit. Vous savez, à l'époque, le peuple disait, il y avait toujours, dans les familles, il y avait toujours un enfant qui avait les petites oreilles, c'est-à-dire qui avait toujours l'oreille tendue et qui écoutait tout ce que racontaient les adultes. Et Georges Navelle, c'était ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a toujours eu l'oreille tendue, qui avait une très très forte écoute, qui était à la recherche de cette coïncidence entre la parole et la relation, disons, à autrui. Et de ce fait, oui, l'écriture, je pense que ça a été pour lui un cheminement, enfin, qui n'aurait pas pu ne pas écrire. C'était vraiment un salut pour lui.
Je posais une question qui en dit long à mon frère. J'ai 12 ans. Je lui dis, dis donc, René, tu crois qu'elle est obligée de vivre jusqu'au bout?
Comment ça se passe? C'est vrai, dans la marche et dans le silence, on éprouve comme ça des instants assez merveilleux. Je ne sais pas si on avait des paroles échangées à ce moment-là, si sans doute comme ça, sur une odeur de pain, et qu'à ce moment-là qu'il évoque, il a peut-être évoqué des souvenirs d'une marche, dans le midi, d'un moment. C'est des petites choses.
Je vise de haut. C'est parvenir, par exemple, à la grande joie, à une joie que j'enfermerai dans une formule qui sera poétique. C'est peut-être l'influence de Rabot, hein. Je cherchais la formule, mais retrouver l'enchantement. Mon but dans la vie, c'était en somme l'impossible. C'est d'arriver à l'enchantement.
Georges Navelle, Les mots à main nue. Marie Chartron, Anne Pérez. Au cours de sa longue traversée du XXe siècle, entamée en 1904 et achevée en 1993, Georges Navelle publiera 4 récits. Travaux, en lice pour le prix Goncourt en 1945, Parcours en 1950, Chacun son royaume en 1960 et Passage en 1982. Sable et Limon, qui paraît en 1952, réunit sa riche correspondance avec le philosophe Bernard Grothuysen. Ses récits puisent dans sa propre existence, Navelle et manœuvre, ajusteur, terrassier, ouvrier agricole, apiculteur, correcteur d'imprimerie. Il sera aussi déserteur, vivant 7 ans sous une fausse identité et combattant pendant la guerre d'Espagne aux côtés des Républicains. Mais le réel, dans son œuvre, est inlassablement transfiguré par le travail de sa main à plume, par sa quête poétique.
Mon père avait passé 60 ans et j'étais à l'école primaire. Donc moi, je l'ai connu dans une deuxième partie de vie, mais c'est une partie de vie où il était aussi actif. C'était un homme du mouvement.
Claire Navelle.
Je l'accompagnais où il m'emmenait très facilement voir ses copains, les copains syndicalistes, les copains correcteurs, les copains peintres. Et puis, il y a eu des périodes où il était plus dans l'écriture. Donc là, je rentrais de l'école et je l'ai vu à la maison. La maison était tout à fait silencieuse. Et j'interrompais pas ce silence. J'étais pas... Ça allait de soi. En fait, il y avait un nuage de fumée. D'ailleurs, c'était plutôt agréable pour l'enfant parce que la maison est habitée. Bon, en même temps, quelqu'un qui est à la fois présent et absent, parce que c'est l'effet que donnait cette concentration. Il écrivait, il a réécrit, il corrigeait beaucoup ses textes.
Ma mère m'a eu à 47 ans. Je l'ai toujours connue comme une mère, comme une femme dont la beauté ne compte pas, mais seulement la bonté, la chaleur, la main à tartine. J'étais son 13e. Je l'ai toujours vue comme si elle avait eu 60 ans, comme toutes les vieilles femmes du village, les mères vertes et actives, sans jamais la confondre avec les grands-mères édentées, grondeuses, assises tout le long du jour, avec leurs mains noueuses sur les genoux. Dans le village, on ne disait jamais d'une femme qui avait des enfants « madame », mais la mère. Toutes les mères se ressemblaient. C'étaient des femmes arides et à larmes. Leurs mains tannées sentaient l'ail. La mienne avait beaucoup pleuré. Elle avait des lacs de larmes derrière ses lunettes. Mais le reste du visage, du front à la bouche, continuait de sourire. La voix aussi.
Quand j'ai écrit Travaux, j'ai quand même songé à la famille à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire au monde ouvrier. J'ai songé que la persuasion, la connaissance pouvaient rapprocher les hommes. Alors moi, il est difficile de m'en mettre plein la vue. J'ai jamais pris le dernier bateau, j'apprends par l'expérience. J'ai revendiqué d'être un ouvrier, j'ai revendiqué aussi d'être intellectuel. Nous, dans notre jeunesse, on voulait être des intellectuels, être des hommes complets, unir la culture, unir l'esprit et la main. Il y a la culture ouvrière, la culture locale, la culture de Mézières. Moi, j'ai été élevé dans un village. Ma mère allait aux champs et aux bois, et voilà, alors, j'ai la culture de ma mère qui était l'essentiel de ma culture est constituée par le fait que ma mère était analphabète.
Ici, c'était le printemps mélangé à l'hiver depuis janvier, avec la floraison successive du mimosa et des amandiers, près des pins et des chênes lièges toujours verts. C'est un signe. Les journées étaient devenues plus longues et la vigne bourgeonnait. La petite équipe, trois piémontais, un espagnol, travaillait dos nu. On était bien, le dos à l'ombre et encore mieux au soleil. Les membres délivrés du vêtement, de l'azur plein les yeux dès qu'on levait la tête. En bas du coteau, la mer s'étalait. Même en piochant, je me sentais léger, à peine existant.
Je pense qu'il est extrêmement marqué par ce contact avec la terre, la campagne.
Hans Stenner.
Et il représente bien le type d'ouvrier qui a existé quand même assez tard en France, d'ouvrier de souche paysanne récente. Et quand il décrit sa famille à Mézières, dans ce village près de Pagny-sur-Moselle, on voit que son père est devenu manœuvre, ses frères sont ouvriers, mais il loue des champs pour cultiver, et c'est la mère qui du coup cultive de quoi nourrir toute sa nichée, et puis il y a des échanges de nourriture entre voisins, etc. Il y a encore ce contact avec la terre qui lui a rendu si douloureux l'enfermement, finalement.
Passagèrement, je ne suis pas un bloc réfractaire. La vie me touche. J'en fais partie. Je pensais vous parler des hirondelles que j'ai vues hier soir se préparant au départ, des ventres blancs au duvet frileux sur un fil télégraphique, et d'autres accrochés au mur d'une maison, face au couchant, pour se chauffer le dos, des jeunes sans doute. Je me trouve étrangement réconcilié, comme si j'avais enfin trouvé ma pente, que je suive naturellement ma pente, et non celle des voisins, et pourtant, sans brouiller leurs pistes. Je me laisse aller à la vie qui coule, et j'écoute même d'une oreille attentive le murmure que ça fait. Il n'en résultera peut-être rien qu'un peu plus de bonheur pour moi-même et plus de bienveillance à autrui.
Donc il y a cet amour de la nature, de ce qu'il appelle le bel entour. Et il accompagne sa mère, un petit garçon rêveur et qui pratique aussi l'école buissonnière. Il souffre aussi de l'enfermement à l'école.
Le premier lieu d'enfermement, c'est l'école. Il n'a même pas été jusqu'au bout du cycle obligatoire. Il a eu la chance, si on peut dire, enfin, de son point de vue, la chance d'avoir 10 ans quand la guerre éclate, ce qui l'a coupé de l'école. Il a été expédié en Algérie avec d'autres enfants puisqu'il était juste sur les lignes de front. Et quand il est revenu, qu'il a retrouvé sa famille à Lyon, déplacé à Lyon, il avait 11 ans, il aurait dû encore faire un an ou deux d'école et il ne les a pas faites, il ne pouvait pas. Et malgré tout, malgré ces seulement 4 ans passés dans le monde de l'école, il dit que c'est énormément de temps pour un apprentissage très minime, qu'il n'a rien retenu de, dit-il, cette pâtée indigeste que l'école l'a beaucoup ennuyé, fait souffrir. Et il dit dans Travaux, je voudrais avoir toute ma rancune d'enfant et toute la fraîcheur de sa souffrance pour le dire. Et surtout cette sensation qu'il avait, bon, ça l'arrache au monde de sa mère, des fleurs, des champs, des abeilles, de tout ce champ finalement d'expérimentation possible et où on peut répondre à des questions fondamentales, notamment de type scientifique, faire des observations, des expériences, etc. Mais aussi que comme enfant, comme tous les enfants, il se pose des questions, je pourrais dire, de type philosophique. Tous les enfants s'en posent. Par exemple, pourquoi une pierre ne meurt pas? C'est une question importante. Et en fait, l'école n'y répond pas, bien sûr, et tu étouffes dans l'œuf la curiosité de l'enfant.
Passons à 17. Enfin, les choses de la ville, de la grande ville, m'intéressent. Un jour, je vois passer les drapeaux rouges, un jour, je ne sais pas, si c'est en mars, un soir d'été, le drapeau rouge, ben, lui, tiens, c'est la révolution, hein. La révolution russe, ben, ça s'est traduit par des augmentations de salaire à Lyon. À Paris, c'était les manifestations. Mon frère s'y trouvait, il a participé. Alors, il y a la révolution russe, on dit, il y a les nouvelles de la révolution russe, on lit dans le journal, on y comprend le pouic, comme on dit, hein, je ne comprends pas. Quand Lucien, quand mon frère revient vivre chez nous, je crois que c'est au début de l'année 18, il m'explique, quoi. Il sait que ça veut dire bolchevique, majoritaire, soviétique, il n'en sait pas trop, et puis voilà, c'était là, les manifestations. Bon, enfin, il m'a donné des explications comme ça, j'ai un peu compris à travers Lucien.
En 1915, la famille Navelle doit quitter la Lorraine, elle est évacuée à Lyon, et en 1916, Georges, le petit dernier de cette très grande fratrie, décide de quitter l'école pour rejoindre à 12 ans l'usine de son frère René. On y décabosse les bidons et les casques usagés des soldats. Quel est ce monde des hommes libres qui s'ouvre à lui quand se referme la porte de l'atelier le soir ?
Le monde des hommes libres, c'est le monde politique, c'est le moment où la tristesse ouvrière, comme il dit, il y a une tristesse ouvrière qui ne part qu'avec l'action politique. Et ce sont ces réunions anarchistes, anarcho-syndicalistes, où on discute d'un monde meilleur à venir, des moyens d'y parvenir. Et il y a toujours cette idée de l'instruction qui est très très importante et qui est au cœur de la pratique anarchiste, s'élever soi-même, se cultiver, développer toutes ses capacités intellectuelles, physiques, sentimentales, esthétiques, et il est pris là-dedans et bien sûr ça le sauve, ça lui ouvre des horizons et c'est ses grands frères qui l'emmènent dans ces réunions. Lui, il est tout jeune, il a 15 ans. Non, même pas, il est né en 1904, il a 13 ans quand il commence à fréquenter ces réunions.
Alors Lucien, bon, mon frère Lucien, l'élément libertaire, comme ça, je tiens à voir ce qui se passe le soir, ce qu'il fait. Il m'emmène à l'Union des syndicats du Rhône, qui siégeait rue Lafayette, c'était un petit bâtiment, etc. Alors il y a une sorte d'émerveillement, quoi. C'est pas comme chez nous, on n'est pas des esclaves, les ouvriers de la grande ville peuvent s'organiser, les militants se rencontrent, et ils échangent, ils se répercutent, et ils se communiquent leurs pensées, leurs études. Il y a le groupe, mais il y a aussi le rôle joué par les amitiés, quoi. C'était des excellents compagnons, avec la force et la virilité, le franc-parler, quoi. Il y avait aussi les délicats, on devient assez facilement physique parmi les militants, quoi. les veillées répétées, etc. Moi, je voyais un peu des choses de l'Église, un peu la légende dorée, les ceux qui ressemblaient au Christ, les apôtres, ceux qui étaient un peu bedonnants, les choses de commun. Mais enfin, la question était de santé, de netteté, de force, quoi.
C'est une formation d'égal à égal. Après, il y a des grandes figures, bien sûr, et des admirations pour des personnes, voilà, comme ces militants ouvriers qui vont parler à Lyon, faire un cours, mais une façon de faire. Tout d'un coup, mon père dit, je découvrais qu'on pouvait penser. Ils rencontrent un gars et puis ils sont impressionnés par la stature, par la voix, par la pensée propre et la façon dont elle est communiquée. Et ça, je l'ai retrouvé enfant quand je l'ai accompagné. J'ai eu l'impression que je retrouvais, enfin, je le retrouvais pas, j'avais pas lu mon père, mais c'est, disons, qu'il m'a communiqué aussi cette admiration ou ce sentiment de fraternité.
On t'a pas parlé de journée?
Un peu.
Un peu. C'était une belle nature, mais... quoi. Un gars sanguin, bouillon, conducteur Batman sur les tramways, chaleureux et sentimental. Quand il montait à la tribune, il devait se perdre des cuirs, mais il parlait de la misère, du fait divers qu'il avait vu, ça devait terminer dans la... Et puis, il était dans l'indignation, presque, oh, pas toujours, le rugissement, l'indignation, peut-être dans les larmes. Et la... Enfin, c'était chaleureux, quoi. Salut, mon gars. Il y avait le terrassier alcoolique qui racontait pourquoi il était devenu alcoolique, comment, comme ça. Il y avait une franchise, une sincérité, là. On était bien, quoi.
Et il y voit, en fait, une école de totale liberté.
Freddy Gomez.
Il apprend l'essentiel. Il apprend un truc qui, je crois, l'avait beaucoup touché, c'est que à un certain moment, celui qui vient là et qui est donc dans une situation d'apprendre, quoi, à un moment, on lui dit, tu pourrais peut-être faire toi-même une conférence sur tel ou tel sujet. Il fait une conférence. C'est la première fois qu'il parle en public, dans les causeries populaires de Lyon, quoi. Alors donc ça c'est les hommes libres. Alors les hommes libres c'est évidemment cette entre guillemets race tout à fait particulière de militants ouvriers de l'avant-stalinisation du mouvement ouvrier. J'étais quand même des types. Alors ça, ceux-là moi j'en ai fréquenté qui étaient quand même des types absolument exceptionnels et culturellement c'était invraisemblable. Il y avait des bibliothèques chez eux impressionnantes. Il y avait une espèce d'attachement à cette idée de l'émancipation par la culture.
J'avais toujours eu un doute. Je pensais qu'il y avait les couches savantes. Hein. En bas, on n'avait pas besoin de trop de comprendre, quoi. Les couches savantes, on comprenait les choses de la vie, de notre vie, mais les choses de la politique, des événements lointains, je pensais pas que c'était notre domaine. Tout d'un coup, j'ai découvert que quand on était ouvrier, j'ai essayé de rencontrer ça, mais je suis pas dans le, je rentre dans la subjectivité en faisant ce qui est de l'enfant, quoi. Mon fils vieux, je travaille au chanton encore après tout. Puis, tu comprends. Alors tu vois, hein, les chansons, enfin il y avait Révolution, des trucs. On commençait à mijoter, quoi. On a le goût de la connaissance, de la curiosité. Puis moi, je crois que c'est vers cette époque vers 1920, j'avais trouvé le moyen d'aller à la bibliothèque de l'archevêché. C'était dur de franchir la première fois, comme ça, parce que je savais pas, hein. Je me trompe, je me fais engueuler par le bibliothécaire, je frappe à une porte, c'est pas un truc. Il y avait l'œil de bœuf, c'était intimidant, les gars pompent funèbres, puis alors c'est là que j'avais trouvé, les catalogues, et puis j'ai cherché, et puis j'ai vu que je trouvais Kropotkin, j'ai eu l'impression qu'il y avait de la dynamite. Ah ben, vers 1920, je vais sur mes 16 ans, quoi, j'ai 15 ans et demi, quoi, il y a déjà, alors, j'ai déjà beaucoup lu, hein, je connais déjà le raisonnement d'Épicure, je sais ce que c'est que le libre arbitre, le déterminisme, enfin, comme ça, on a des... La pensée, ça marche très vite, hein. Ça allait très vite avec des points de naïveté, quoi.
Il va
Gérard Medal.
Être déjà très intéressé par l'écriture, puisque quand même, il fréquente un certain docteur Malespine à l'époque, et le docteur Malespine a une revue qui publie quand même Harpe, Zara, etc. Donc il est déjà introduit, si j'ose dire, dans les milieux littéraires. Et à partir de ce moment-là, il va, refusant de s'embrigader dans aucune forme de vie sociale, il va partager son temps. D'abord, il va apprendre un métier, il va apprendre le métier d'ajusteur. Il aura un apprentissage un peu sur le tas, il aura un peu falsifié d'ailleurs ses papiers pour pouvoir être embauché. Mais il va passer son temps à travailler soit dans l'industrie automobile, en particulier chez Berliet à Lyon ou dans les usines automobiles de la région parisienne. Et c'était possible à l'époque, apparemment, en ayant gagné un petit peu d'argent dans ses activités d'ouvrier, il va louer dans le Midi une sorte de point de chute où il va essayer de survivre de la manière la plus efficace possible, proche de la nature. Donc il est un peu apiculteur, il est un peu jardinier. Quand il est vraiment à court d'argent, il va travailler sur les chantiers. On construisait à l'époque la route de Corniche, donc il va être un peu enfin, il va aller casser des cailloux, quoi. Et puis, avec toujours le désir, à la fois de trouver un équilibre, une forme de vie autonome, et puis il va croiser un certain nombre de gens qui vont l'encourager dans son désir d'écrire. Alors, en particulier, il y a le poète Paul Giraldi en question qui utilise Navelle comme une espèce d'ouvrier agricole ou factotum, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, va être frappé par ses capacités d'écriture et va l'encourager à composer son premier livre, Travaux.
Il a reconnu dans le conteur Navelle un écrivain possible et un homme qui avait peu de préjugés, puisque... Il est dans une villa au bord de la Côte d'Azur. Bon, c'est quand même le début des villégiatures. Enfin, le début. C'était entamé déjà avant la guerre de 14, mais ça prend de l'ampleur dans les années 20 et 30. Ces villas pour Parisiens tout le long de la côte. Et Navelle parcourt le pays avec une carriole, avec des souches de bruyère qu'il arrache aux pentes, qu'il vend à ses estivants pour allumer les feux de leurs feux de cheminée, et lui le reçoit comme un ami, enfin partage son pain avec lui, a une curiosité. Paul Giraldi était porté par une curiosité vis-à-vis de Navelle, donc c'est quand même la preuve d'une grande ouverture d'esprit, parce que je pense que beaucoup lui achetaient ses touffes de bruyère et s'intéressaient pas spécialement au bonhomme qui les leur apportait.
Disons, j'appartiens à une couche sociale de paysans. Mon père a été le premier dans l'industrie, il a été manœuvre, mais enfin, avant des paysans, qui n'ont rien dit. Alors, j'ai un peu l'impression qu'à travers moi, hein, mais je sais pas à quel âge j'ai eu ça, ça appartient un peu à l'ordre du rêve, hein, je sais pas si c'est à 30 ans, 25 ans ou autre chose, que j'appartiens à une couche sociale qui n'a rien dit, et que mon rôle dans la vie sera de fleurir, c'est-à-dire de dire.
Mes règles étaient assez simples. Je me suis dit que je ne pourrais pas tout exprimer. Il faut donc savoir finir un livre sur un objet unique. Il ne faut pas sauter plus haut qu'on ne peut. La grâce se conquiert dans l'aisance. Il faut s'attacher à la justesse dans la voix. On a une voix. Et on ne la force pas. Les mots scientifiques, par exemple, sont ennuyeux. Tout le monde ne les comprend pas. Alors choisir toujours le mot le plus humble.
On a eu un vif sentiment que je ne peux pas traduire, que je ne peux guère traduire. Le sentiment que je n'étais pas des sujets. Voilà. Je ne sais pas. D'ailleurs, il y a l'influence rousseauiste du contrat social. Mais le sentiment, comment se peut dire qu'on s'est senti... profondément relié à la pensée anarchiste par le refus du chef que l'individu n'est pas un objet de la société ni de l'État, quoi. Le sentiment de l'autonomie. J'essaie de traduire quelque chose qui est mystérieux et en quoi on se différencie des gens qui sont disponibles pour l'obéissance, qui n'ont pas de compte à rendre. Alors ça, c'est très difficile à rendre... L'idéologie s'accompagne d'un certain état de la sensibilité, de rêverie aussi, et même du rêve nocturne, quoi. Ça fait un tout. Moi, avant, je souffrais d'être heureux, quoi, tu comprends ? Quand j'étais apprenti en 1920,
J'allais au boulot, j'avais des choses à faire qui m'intéressaient. Alors j'avais l'impression que j'aurais jamais dû oublier les marins de la mer Noire, que j'aurais dû souffrir, être d'accord avec la douleur universelle. Alors, en étant heureux, j'étais un peu coupable, quoi.
C'est quand même fondamental chez Navelle, c'est-à-dire c'est toujours un type qui est dans un espèce d'entre-deux permanent, il n'est jamais à sa place, nulle part. C'est en fait, quand il rentre en usine, il veut rentrer en usine. Et puis quand il est en usine, il veut sortir de l'usine. Quand il est anarchiste, par exemple, il est plutôt prolétaire, quoi. C'est-à-dire pour lui, ce qui est important, c'est le collectif, la conscience de classe. Mais il fréquente aussi des cercles, anarchistes individualistes, qui eux sont plus dans la libération personnelle, choses comme ça. Il les méprise un peu, en fait, Navelle, mais il apprend beaucoup d'eux, et il apprend la liberté. Sa vie, en fait, est une vie d'errance au sens de l'errance du trimard, quoi, du vagabond. Et puis par moments, il a des espèces de crises, de retour, il faut que je retourne à l'usine. En fait, on a l'impression qu'il est toujours là, dans une espèce de monde à lui, d'ailleurs. L'énorme tam-tam des machines accélérait nos gestes, tendait notre volonté d'être rapide. Le cœur essayait de s'accorder à la vitesse des claquements de courroies. Dehors, l'usine me suivait. Elle m'était entrée dedans. Dans mes rêves, j'étais machine. Toute la terre n'était qu'une immense usine. Je tournais avec un engrenage.
Oh, comme il est difficile d'être autre chose que ce qu'on fait, d'être autre chose que là où on est. On ne fait guère que refléter le monde où l'on se trouve. On est tour à tour métro, atelier, resto, ce qui me reste dans les bons jours, c'est d'isoler les facultés, de séparer l'être des choses, de sentir le regard comme une chose à part, le fluide des mains et de tout le corps comme chose à part. Pourtant, on est là. Alors là, évidemment, c'est un peu la...
Philippe Petit.
L'accent... Simone Veil de la pesanteur et de la grâce, qu'il avait lu et qu'il connaissait bien. Et c'est presque le versant rimbaldien de Georges Navelle, le côté illumination, avec une tendance mystique, mais très cadrée. Je vais vous raconter une anecdote. À la fin de sa vie, et il se sentait un petit peu enfermé à la Valdex. Et un jour, il écrivait, il réfléchissait, il marchait. Et un jour, il a pris sa mobylette et il est parti dans la montagne, et tout le monde l'a cherché, il a disparu. Et il avait suivi ou rencontré une bergère, et il s'était enfermé dans la bergerie, on l'a retrouvé, donc voilà, le ciel étoilé au-dessus de sa tête, et il avait voulu partir. Hein, c'est un, alors évidemment, bon, c'était un peu une illusion, mais bon, il l'a fait. Il avait 80 ans passé. Hein.
C'est vous qui l'aviez questionné sur le suicide, ou c'est lui qui avait abordé cette question avec vous?
C'est moi qui l'avais abordé. Enfin, j'avais évoqué mon suicide, et alors il m'a dit, mais alors comment est-ce que tu feras? Là, j'étais un peu prise au dépourvu, alors je lui ai dit, ben, je me tuerai avec un couteau. Parce que j'avais 8 ans, voilà, j'ai... Et ça l'a fait sourire. Voilà, non, mais c'était surtout la façon qui m'a plu, en fait, qui m'a demandé d'une façon assez neutre et curieuse, alors comment tu t'y prendras? Mais après, il a assez peu parlé, après j'ai lu ses tentatives, le récit de ces tentatives assez cocasses et dont il était en fait amusé.
J'ai souvent pensé avec bonheur au plaisir du suicide, à me suicider, quoi. C'est pour moi un moyen de force. Penser que l'on peut se suicider peut m'aider à supporter la vie, quoi. Autrement dit, je n'y vois pas de morbidité, vous comprenez?
Oui.
Et l'idée de suicide en elle-même ne peut que m'aider et fortifier mon goût de vivre, puisque c'est une sorte de porte ouverte à la liberté. J'ai eu une expérience heureuse du suicide. Une expérience, quand j'avais 18 ans, je me suis jeté gaillardement en haut d'un pont. C'était ma décision. Je suis allé là en sifflant, j'enjambais mon parapet, etc. Les eaux étaient noires. Et... quand la vie de chantier m'était très pénible, eh bien, en effet, j'avais envie de quitter cette vie d'abord utile, les 10 heures par jour, ou cette peine, de dire non par le suicide, mais avec du soleil sur les épaules, immédiatement, je réintègre ma peau, puis j'ai envie de vivre.
Donc il n'était pas habité particulièrement par la mélancolie?
Non, je crois pas du tout. Effectivement, le mot mélancolie lui correspond pas. Il peut avoir par moments le sens du tragique, hein. Mais beaucoup de légèreté aussi. D'ailleurs, une phrase dont je me rappelle est « Il faut passer sur les mots avec légèreté comme sur une passerelle ». Et je crois que dans son écriture et dans le récit de ce qu'il fait, il y a un peu de transformation pour éviter la trop grande, quelque chose de définitif comme ça. Et la mélancolie n'est pas... C'est quelqu'un qui avait un plaisir physique à vivre, à respirer, qui... même tout en relatant ses difficultés forcément dans l'usine, parce qu'on peut être que malheureux physiquement dans cet univers de bruit et ce rythme de travail. Mais sinon, c'est quelqu'un qui, dans la nature, est bien, qui a un contact avec par la peau, par les yeux, par les mains.
Il n'a jamais donné dans la théorie, que ce soit la théorie du retour à la Terre, la théorie de je sais pas quoi. Il n'y avait jamais de théorie chez lui. Il faisait non seulement la concession d'aller travailler en usine, d'aller travailler dans l'industrie, parce qu'il avait besoin d'argent et que c'était le moyen d'en gagner plus rapidement, mais c'était pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il considérait que le geste industriel, si j'ose dire, y compris... après le passage de la télérisation, c'est-à-dire qu'il n'était pas artisan, il était ouvrier dans la grande industrie, ce qui est quand même très très différent, il considérait qu'il avait quelque chose à apprendre là aussi, et que le geste d'un ajusteur, ça paraît curieux de dire ça, on se ferait conspuer par tous les syndicats si on disait ce genre de choses, mais Navel, lui, pouvait le dire, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... qu'on pouvait chercher à conquérir la liberté dans un geste purement mécanique, par différentes choses qu'il explique mieux que je ne pourrais le faire, mais par le fait de cultiver l'attention, la présence à l'instant, au geste que l'on fait. C'est-à-dire que, évidemment que l'univers industriel était déshumanisant, mais il ne considérait pas que le retour à la nature soit la solution absolue, soit la panacée. Il recherchait aussi autre chose. Oui, une quête existentielle, effectivement, oui. Et quand tout ça était évidemment nourri à la fois de... Il se retirait pas dans une espèce de tour d'ivoire, parce que tout ça était nourri d'échanges.
J'ai des souvenirs, oui, assez précis, parce que dès lors qu'on se promenait avec Georges Navel, même si on faisait ses courses, si on regardait les éboueurs en train d'enlever les poubelles, on était tout de suite dans des rapports sociaux qui n'étaient pas habituels. Les éboueurs, il allait leur parler pour essayer de voir si le geste qu'ils accomplissaient de mettre la poubelle dans la benne, c'était un geste, disons, auquel il participait. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui ne voulait pas être prisonnier du monde social, de ce qu'il appelait lui-même le drame social. Et évidemment, il en a été prisonnier dans de nombreuses circonstances. On voit dans ses textes, notamment sur Citroën et sur l'usine, dans Travaux. Dans la mesure où il était très conscient de cet enfermement, il voulait que chacun puisse avoir la possibilité, disons, de sortir momentanément de la place sociale à laquelle il était assigné ou à laquelle les autres voulaient l'assigner.
Il arrive à nous faire ressentir la peine physique extrême, on en a mal au dos, aux mains, et puis il y a cette chaleur qui... On se dit comment il fait, et puis oui, en fait, ces liens si forts qui se tissent entre les hommes et qui en fait rendent le travail supportable. Mais il a parfois la main, enfin la plume un peu méchante envers les hommes qu'il côtoie. Il juge parfois un petit peu durement la résignation, etc. Mais il dit qu'il faut du temps pour aimer les hommes et que effectivement jeune, il était très révolté par certains comportements et qu'avec le temps, et c'est une phrase assez juste, il faut du temps, il faut vieillir pour aimer les hommes, exactement. Il dit ça, il faut vieillir pour aimer les hommes.
Les vendanges sont faites presque partout. Nous, nous avons terminé. L'automne s'installe vigoureusement. Le vent tape du poing sur la table et fait claquer les portes. On se sent bien avec une veste et deux tricots. On se sent mieux qu'il y a 15 jours au grand soleil, en commençant. Et c'est dimanche, le premier jour de repos de la quinzaine. Les épaules allégées du fardeau quotidien soulevé par le vent, on se sent aérien, les reins légers et les jambes élastiques. Je n'en reviens pas d'un pareil bonheur. C'est un peu comme si du Châteauneuf-du-Pape se mettait à prendre la place du sang de Paris. Du feu aux joues, du froid aux tempes, et tout le corps remagnétisé par le travail. Les Gauloises ordinaires sont bonnes à fumer comme de l'opium, et la vide rencontre une fraîcheur de grands parapluies bleus. Avec tout ça, on est lucide et peu bavard. On serre sur soi l'or du silence. On se tient heureux sans en avoir l'air.
Oui, ça me frappe, ça, quand je le relis, effectivement, qu'il est toujours dans la sensation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu, qu'on partage comme ça. Il y a le contact de la main dans la promenade que j'avais avec lui toute petite. Ah, se donner la main, il y a un contact rassurant, le contact avec les outils. La façon de tenir le marteau, c'était aussi un contact avec un outil, le manche en bois du marteau. Il y a le mouvement, le toucher. On pourrait faire un traité là, de physique, plutôt des fois que de la sociologie du travail. Hein. Disons que j'aime bien sa pensée et ce qu'elle a aussi de propre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas universitaire, elle s'est fabriquée par elle-même, donc après...
Georges Navelle dit qu'il n'a pas besoin d'écrire comme un romancier, que le roman doit être de grande classe pour être supportable. Il estime que sa communication la plus naturelle, c'est la lettre, et on le ressent bien dans sa correspondance avec le philosophe Bernard Grothuysen, qui l'accompagne dans sa vie et dans son écriture. Navelle, c'était avant tout un grand épistolier.
J'en ai des lettres de Georges. Bah, c'était des lettres écrites dans le hic et donc, voilà, la Valdex, hein, la date, hein, et avec toujours, non pas une mise en scène, mais une mise en situation, et surtout un baromètre de l'âme. C'est-à-dire que chaque lettre de Navelle vous indiquait l'état de son esprit. Et ça demandait un échange, évidemment, ça demandait une réponse. C'était un épistolier, de ce point de vue-là, hors pair, c'est-à-dire qu'il y avait le sens de l'adresse. Enfin, on le voit très très bien dans Sable et Limon. C'était quelqu'un qui profitait, entre guillemets, de la lettre pour explorer des choses nouvelles. J'emploie l'expression « baromètre de l'âme », c'est-à-dire que la lettre, elle est un moment précis, selon qu'on est l'été, qu'il fait froid, l'importance aussi, comme ça, de l'atmosphère, c'est son côté un peu Maine de Biran, et surtout d'explorer la situation de son temps et de son âme.
Le vent soufflait aussi fort que dans la nuit. J'ai pu pousser en pédalant des grands hurlements de la gorge, des grands aoua baou pour me réveiller la poitrine, me mettre d'accord avec le paysage, sans risquer d'être surpris et gêné par la soudaine rencontre d'un auditeur inattendu. Oui, peut-être un jour je redeviendrai poète, comme j'y pensais en pédalant, si tout ce qui se passe et tout ce que je vois me traverse, se prolonge comme chez les enfants et les convalescents. Et peut-être je me mettrai à dessiner et à peindre. Je vois, comme j'ai rarement vu, la vie frémir, un peu l'état sénilité larmoyante, dont André Gide se prétendait menacé dans son journal.
L'écriture, c'est comment on parle de ça, quoi. Comment on raconte sa vie quand on est prolétaire. Et au départ, il se fourvoie, en fait. Il part sur la poésie. En fait, il est un peu influencé par le dadaïsme, le surréalisme, mais il ne maîtrise pas, en fait. Et il écrit des poèmes, dont un a été publié par la NRF, quand même, hein, de Pollan. Et donc, en fait, la relation avec Gretussen est très importante, parce que c'est Gretussen qui lui fait comprendre qu'en fait, oui, il a beaucoup de choses à dire, mais que c'est pas par là que ça doit passer, quoi. Et là, d'ailleurs, il le raconte très très bien, il y a une espèce d'accouchement qui s'opère en lui, et il trouve en fait sa voix, comme il dit. On a une voix, et il faut la garder. Et travaux, parcours, passages, à chacun son royaume, ce sont en fait des variations sur la même thématique, mais avec cette voix tout à fait particulière de Naven, et c'est une voix qui passe encore. Hein. Moi, j'ai fait des expériences assez récentes avec des jeunes amis qui étaient de la même extraction sociale que Naven. Et franchement, ça passe, quoi. Ça passe même au point de bouleverser leur vie. En poussant la porte de la chambre, l'amour, la vraie vie commençait, celle où je trouvais des raisons de supporter l'usine. Anna dormait encore. Elle se levait pour m'ouvrir. En l'embrassant, je dormais debout, la tête lourde, la nuque douloureuse. Anna m'enlaçait. M'abandonnant à la fatigue, je me laissais glisser, un instant en moi-même, comme dans une nébuleuse plus vaste que mon corps. Par le ventre, la poitrine, les bras, la chaleur douce d'Anna m'envahissait. J'étais un instant dans un oubli profond, comme hors du monde et sans âge, comme un blessé qu'on porte et qui s'abandonne au mouvement de nacelle d'un brancard. J'ouvrais les yeux comme si brusquement j'avais poussé deux volets d'une chambre obscure pour y faire pénétrer la lumière matinale. Et je voyais le tendre et beau visage d'Anna me sourire, tandis que je respirais son odeur aussi profondément que si je m'étais promené à la belle saison pour la première fois. Il dit aussi, alors ça c'est dans Sable et Limon, c'est une phrase qui m'avait pas mal plu, il dit, donc c'est la correspondance avec Gretussen, il dit « Je suis d'un certain côté de la balance ou de la barricade, comme on disait, mais l'essentiel me semble d'avoir bon estomac, cœur solide, digestion facile de la vie, le rire venant bien à l'aide, quelques affections, vivre dans le présent sans trop avoir besoin d'une idée de l'avenir, tout en demeurant un homme de bonne volonté. »
Quand je relis Naven, je pense à ce beau titre de Georges Perec, « La vie mode d'emploi ». C'est-à-dire que ce que Naven a toujours cherché, c'est le mode d'emploi. Voilà, c'est peut-être ce que font tous les écrivains, trouver le mode d'emploi. Sauf que quand on est lancé dans le bain sans avoir d'outils particuliers, si ce n'est ceux qu'on s'est forgés soi-même, c'est d'autant plus touchant, parce que c'est bien ça, il y a une espèce de quête philosophique. Oui, de quête philosophique, je peux pas dire mieux. Moi, je vois Naven comme une espèce de philosophe grec de l'Antiquité, voilà, qui essaye de trouver une morale, un mode de vie, une philosophie, une compréhension du monde. Sauf qu'il le fait sans aucune pédanterie, parce qu'il n'a pas les outils pour l'être, si j'ose dire. Donc, il y a une espèce d'immédiateté qui est celle d'un poète. Il y a une maîtrise de la langue, parce que c'est un grand styliste, quand même aussi. Et puis il y a quelque chose qui me frappe, c'est cette espèce de quête du juste milieu. Parce que vous le disiez, il a vécu dans la solitude, il parle de la solitude, mais il ne supporte pas la solitude, que ce soit la solitude dans le milieu industriel, que ce soit la solitude à la campagne, il ne supporte pas. C'est quelqu'un d'essentiellement sociable. Il est constamment dans le contact, toutes ses lettres le prouvent, il ne peut pas vivre sans se lier avec, y compris son plus proche voisin, peu importe. Mais en tout cas, il y a cet équilibre constant entre la solitude et la sociabilité. d'humanité. On le classe aussi comme un écrivain libertaire, issu du mouvement anarcho-syndicaliste, très bien, mais en même temps, il est publié, l'essentiel de son œuvre est publié chez Gallimard. Si on essaie de lui coller une étiquette, on n'y arrive à peu près jamais. Qu'est-ce qu'on admirait chez lui? Le fait que ce soit un ouvrier, un autodidacte, et qui arrive à maîtriser aussi parfaitement le langage, en même temps, ça devait être un très bel homme, une espèce de dieu grec à l'époque, donc dans ces milieux intellectuels, tout à coup, de voir un terrassier qui est capable de soutenir une conversation avec un philosophe, il séduisait tout le monde, parce que c'est une espèce d'ovni. On ne sait pas très bien on sait de quel milieu il vient, mais on ne sait pas du tout comment il a pu parvenir à une telle profondeur de réflexion, à une telle maîtrise du style, pratiquement avec ses propres armes.
Il est navellien, quoi. C'est pas qu'un prolétaire. Il refuse, en fait, la surdétermination comme prolétaire. Et d'ailleurs, Navelle le disait, hein, je suis autant ouvrier que l'est Valéry. Et il disait aussi, si je suis un écrivain prolétarien, il faut dire que Proust est un écrivain bourgeois. Sa fréquentation des anarchistes individualistes a été très très marquante. Parce que il est lui, en fait. Sa voix, c'est la sienne. Alors, c'est une voix qui parle beaucoup des prolétaires, des trucs comme ça. Mais de prolétaires au sens très large, hein, parce que, je veux dire, dans Travaux, quand tu as un chapitre sur la cueillette des cerises en Haute-Provence, il n'y a pas de prolétaires. Là. C'est des gars qui travaillent à la pièce, qui sont des cheminots. Il y a cette anecdote qui raconte... donc il se définissait donc comme écrivain de l'éveil. Et en fait, c'était un peu mystérieux, cette notion et tout ça. Donc il raconte, je crois que c'est dans Travaux, comment il est isolé dans sa maison, et il faut qu'il reprise un pantalon. En fait, ça l'emmerde, quoi. Il n'a pas envie de faire ça. Et il décide de le faire avec attention, il dit. Avec attention. Et donc, il reprise le pantalon en pensant à comment il avait vu sa mère repriser le pantalon. Et donc, il est en lien direct, en fait, avec la mémoire, l'ancienne mémoire, la mémoire de sa mère. Et donc, c'est l'attention qui provoque un espèce d'éveil historique de comment était sa mère. Et tout. Il a pratiqué ça en permanence dans son écriture, mais c'était un gros travail d'écriture qui est absolument abouti, hein. On a cette espèce de musique, en fait, dans la tête, quoi. C'est tout à fait singulier comme écriture. Mais c'est une écriture... Alors là, je dirais, c'est une écriture de travailleur. C'est-à-dire, il écrivait comme il montait un mur. Et parfois, il démontait. Parce qu'en fait, il y a de la correspondance de Navelle où il raconte que le mur est un peu tordu, qu'il faut qu'il le casse, qu'il recommence et tout ça. Il y avait une espèce de truc... Oui, alors ça, c'est lié aussi au travail bien fait, quoi.
J'invente pas, hein. La mémoire est très vive pour maintenant, hein. Et la mémoire de la retraduction des impressions est pure et zon, quoi. Je suis sans doute, mais ça, c'est les yeux de l'enfant, quoi.
L'ombre des branchages dessinait comme des tatouages sur les peaux nues. De temps en temps, on se disait, il fait beau, hein. Ça contenait tout. J'étais heureux comme le sont les bêtes, le chien, l'oiseau, le crocodile, quand la faim ne les tourmente pas et que toute cause de douleur est absente.
Moi, j'ai eu l'impression quand même de partager les enchantements. Comme ça, j'ai eu des questionnements d'enfants auxquels il était tout à fait attentif, auxquels il répondait sans du tout... sur le mystère, comme ça aussi, le mystère des choses. Donc ça, il l'a conservé. Je lui avais demandé si Dieu nous entendait. Et il m'a dit peut-être qu'il nous entend très doucement. Plus tard, je me suis dit que c'était une chouette réponse de pas avoir découragé. Je pense pas d'ailleurs qu'il était athée, mais voilà, il me laisse la liberté de croire sans encourager ni décourager. C'était pas la question de Dieu, mais c'est aussi la question de ce que ça représente, c'est-à-dire de la présence au monde. D'un certain mystère quand même qui est dans des émerveillements qu'on peut avoir dans la nature. Et ça, c'est vrai qu'on les a partagés ensemble parce qu'on a marché ensemble dans la Drôme, en montagne. Mes parents avaient acheté une maison, là, tardivement, avec un grand champ.
Alors un jour, je raccommode mes pantalons. Alors je découvre l'attention. Je découvre que tu as un cousin, pantalon. Je ne suis pas malheureux, ma main n'est pas malheureuse, je suis, etc. Alors j'ai découvert l'attention. Alors travaux, j'ai écrit le travaux, à la fois pour jeter la condition ouvrière, hein, dignifiée, et en même temps exprimer l'aventure de l'attention. Mais ce que j'avais vécu comme aventure de l'attention, c'était pour ainsi dire inexprimable. Hein. Ayant découvert les bienfaits de l'aiguille, après, je m'applique avec la cuillère à café, etc., à remuer ma tasse, à être dans la sensation. Et puis après, je pousse la chose un peu plus loin, presque d'une manière maniaque. Hein. Je me lève, je suis pieds nus. Au lieu de vivre sur le rythme habituel, je vis sur le rythme d'un chasseur qui je ralentis les gestes, quoi. Je suis beaucoup plus présent. Alors, ralentissant les gestes, j'aboutis à un cinéma de l'esprit assez singulier, au bonheur, qui me donne presque le sentiment de la folie douce, quoi.
Évidemment, une fois qu'on était entré dans ce qu'il dit être là, c'est-à-dire le il y a dans la présence, si vous voulez, dans la présence absolue, c'est-à-dire tout simplement, bon, ce que Rousseau aurait appelé le sentiment de l'existence, le sentiment de l'existence, un peu comme Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire, quand une fois que vous avez oublié la manufacture, une fois que vous avez oublié ce qui est un peu autour de vous, il ne reste plus que le clapotis de l'eau et que l'ultime sentiment de l'existence, c'est-à-dire pourquoi je suis en vie. Ben, Navelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a évacué la place sociale, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il était capable d'entrer en parfaite coïncidence avec ce qu'il est en train de faire ou avec ce qu'il est en train de dire, alors à ce moment-là, bon, il y a une ouverture possible. Que évidemment, c'est une ouverture mystique, c'est-à-dire qu'il est totalement rendu à l'énigme de la présence, de pourquoi je suis là, pourquoi moi Navelle, pourquoi etc. etc. Et c'est en tant que tel, on peut dire qu'il fait effectivement une expérience mystique, et c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que tout homme, et c'est évidemment ça qui m'avait séduit à l'époque, Navelle n'est pas un fils de la bourgeoisie, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même, c'est un autodidacte, il s'est fait par son frère, il s'est fait par ses rencontres avec les libertaires, avec toutes ses expériences, ses voyages, il a été déserteur, après il s'est entouré d'amis, Giono, etc., etc. Tout cet apprentissage, ça débouche chez lui vers un sentiment métaphysique de l'existence, et c'était évidemment cela qu'il recherchait. C'est-à-dire, il y avait une inquiétude, une énigme. Pourquoi ? Alors, c'est pour ça qu'il accordait extrêmement d'importance au lieu. Ces maisons étaient très sobres, très belles. Il y avait un ordre aussi. Il y avait un côté janséniste presque chez Navelle.
La présence au monde, c'est aussi une forme de délicatesse avec les objets. Je veux dire que on vit dans une maison. On partage un lieu avec sa famille, on peut occuper ce lieu de façon bruyante ou pas. Là, c'était Georges, mon père, a une présence douce. Je pense par exemple, c'est vrai que je l'ai vu dans la Drôme, c'était pas du tout un bricoleur, c'est quelqu'un qui aime... Voilà, il y avait toujours une brouette, une pelle, c'était des objets familiers, donc il y retournait cette fois librement, parce que c'était pas sur un chantier, c'était pas sous la contrainte. Il était content dans cette maison de pouvoir aller faucher le champ le matin, tôt, comme ça, aux premières heures. Comme le champ était assez grand, il avait pour une quinzaine de jours pour faucher tout le champ. Donc le maniement de la faux, ça pouvait... Voilà, il m'a appris à affûter une faux. Et ça se faisait d'une façon douce, surtout pas de cours. Hein.
Georges Navel n'était pas hâbleur. C'était pas quelqu'un qui essayait de vous en imposer, mais il est certain que c'était quelqu'un qui était obsédé par la présence. Il réclamait beaucoup. Donc, du fait que sa présence était une énigme, il essayait de s'en assurer, disons, auprès de l'autre. Donc, du coup, il y avait parfois un côté interpellation. C'était pas l'homme de l'abandon et des calmes conversations sous la tonnelle. Il fallait toujours se lever, il fallait toujours commencer la journée en mangeant des œufs et de l'ail, et puis hop, tout de suite être dans une sorte d'ardeur communicative.
Il est assez rare qu'il se taise, Navel. C'était parfois même il était dans une espèce de récits comme ça très très étranges, et puis de temps en temps il posait une question pour feindre d'avoir été interrompu ou pour savoir si on suivait toujours, et en définitive il suivait son cheminement. Il n'était pas, c'était curieux parce que on lui a parfois reproché d'être complètement je dirais presque enfermé dans son discours intérieur. Pour moi, c'était absolument passionnant, parce que vous avez devant vous une pensée en train d'agir, en quelque sorte. Et une pensée bienveillante, puis alors en même temps, c'était un pan entier d'histoire littéraire. Il avait cette formule que je cite de temps en temps, il me disait « Moi, je n'ai pas la bosse du respect ». Il n'avait pas l'impression d'être ni d'être supérieur, ni d'être inférieur, mais il fallait pas lui en compter. Il ne cherchait pas à s'intégrer à une classe à laquelle il n'appartenait pas. Il considérait qu'il était légitime dans la position dans laquelle il était.
Dans la vie, j'ai toujours été pressé de hâter un peu le mouvement, quoi, de voir ce qu'il y a derrière. Hein. Alors, j'ai quitté l'école de bonne heure. J'étais pressé de connaître la vie des grands, quoi.
Georges Navel, Les mots à main nue. Avec Claire Navel, Anne Stenner, historienne et sociologue, Gérard Medal, journaliste et traducteur, Philippe Petit, philosophe et journaliste, et Freddy Gomez, historien, éditeur et correcteur. Merci à Victor Navel-Pillot, à l'éditeur Jacques Beaujard, à Claire Ozias et à l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam. Les archives inédites sont extraites d'entretiens avec Georges Navel menés par l'historienne Claire Ozias, et les archives INA du film de Jean-Daniel Pillot, Georges Navel ou la vie éveillée, des émissions Boîte aux lettres, Lecture pour tous, Du suicide et Des nuits magnétiques. Documentation Marie Chauveau et Anne-Lise Signoret. Technique Nicolas Mathias. Mixage Claude Niort. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de Marie Chartron et Anne Pérez.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.